France Musique. La Révolution française en chanson.
Madame Véto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Le 5 mai 1789, l'ouverture de la réunion des États généraux au château de Versailles marque le début de la Révolution française. Le roi Louis XVI convoque les trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. C'est le dernier moyen qui lui reste pour tenter de sauver le royaume de la faillite. Mais le discours du ministre des Finances Necker déçoit. 1200 députés, venus de toute la France, apportent avec eux les cahiers de doléances. Très vite, une discussion acharnée éclate sur la façon de voter. Par tête, une voix pour chaque homme, ou par ordre, une seule voix pour chacun des trois États, comme le voulait la tradition. Sous l'impulsion de Mirabeau, les députés du tiers-État se retirent et le 17 juin, ils se constituent eux-mêmes Assemblée nationale. Ils sont conscients de représenter la majorité des Français. Le 20 juin, sous prétexte d'effectuer des travaux d'entretien, le roi interdit l'accès de la salle où se réunissent les États généraux. Les représentants du tiers-État se rassemblent alors dans un gymnase qui sert au jeu de paume. Là, sous la proposition du député Mounier, ils s'engagent à ne jamais se séparer avant d'avoir donné à la France une constitution. Chacun à leur tour, les députés répètent « je le jure ». Très vite, l'Assemblée entame des discussions et Lafayette, inspiré par son passage aux États-Unis, propose une déclaration des droits de l'homme. Mais le roi précipite les événements et renvoie Necker le 11 juillet. Il le tient pour responsable du désordre. Le peuple est consterné car il voit une véritable estime au ministre des Finances. Son renvoi met le feu aux poudres et provoque l'insurrection du peuple parisien. Sous l'impulsion de Camille Desmoulins, le peuple se rassemble et l'anarchie commence. Le 14 juillet, on donne l'assaut à la Bastille, symbole de l'absolutisme. Elle est prise et rasée. Ce jour-là, le roi est parti chasser. À son retour, étonné, il demande « C'est une révolte ?»« Non, sire, c'est une révolution. » Toute la semaine suivant la prise de la Bastille, on chante « La prise de la Bastille » au refrain fétiche des sans-culottes et écrite sur un air à la mode. La chanson fut l'un des genres les plus répandus durant cette période. Si l'on recense 116 chansons composées en 1789 sur le sujet révolutionnaire, elles sont au nombre de 701 en 1793. L'engouement de la population pour ce genre mineur est donc réel. La chanson joue un rôle essentiel comme moyen mnémotechnique dans une France où une grande partie du peuple français ne sait ni lire ni écrire. Elle représente pour le pouvoir un instrument de propagande simple et efficace. Les chansonniers et les poètes se servent d'airs connus de tous, comme Cadet Roussel ou J'ai du bon tabac, le bon roi d'Agobert. Ils y greffent des vers adaptés à la situation politique du moment et la chanson fait ainsi le tour de Paris. Ces chansons révolutionnaires naissent alors de chansons populaires, mais aussi de danse, de cantiques, d'ariettes empruntées à l'opéra comique ou de la comédie italienne, voire même chez Lully, le compositeur fétiche de Louis XIV. Ils sont très nombreux ceux qui fabriquent ces nouvelles chansons et ils représentent toutes les classes de la société. Avocats, auteurs dramatiques, artistes, poètes, hommes politiques ou officiers municipaux. Le 16 juillet 1789, suite à la prise de la Bastille, le roi est obligé de rappeler son ministre des Finances, Jacques Necker. Il est accueilli le lendemain à l'hôtel de ville où il accepte de porter la cocarde tricolore, nouvel insigne des insurgés, aux couleurs de la ville de Paris et de la monarchie. Le blanc des Bourbons est glissé entre le bleu et le rouge de la ville de Paris. Le roi approuve la formation de la garde nationale, une milice créée tout de suite après la prise de la Bastille par la municipalité de Paris pour tenter de contraindre tout nouveau débordement populaire. De nombreux volontaires, issus des couches les plus aisées de la population, y adhèrent. Louis XVI nomme le marquis de Lafayette véritable héros national, commandant en chef de la garde parisienne. Dès le 20 juillet, naissent dans tout le pays d'autres milices sur le modèle parisien. Sur l'air de « Il pleut bergère », le peuple chante alors spontanément « Frères, courons aux armes ». La monarchie absolue est finie et les premiers nobles commencent à émigrer. Très vite, l'anarchie s'installe dans la capitale. Des rumeurs alarmistes, comme un complot aristocratique ou une invasion étrangère, provoquent la grande peur dans les campagnes. La fureur des paysans se déchaîne dès lors contre les demeures féodales qui sont brûlées et saccagées durant l'été. Dans la nuit du 4 août, l'Assemblée discute des moyens pour enrayer ces émeutes et au fur et à mesure des discussions, elle abolit peu à peu tous les droits féodaux. Au retour de la famille royale à Paris, suite aux journées des 5 et 6 août 1789, un extrait de l'opéra Lucile de Grétry est sur toutes les lèvres. Le peuple chante « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ?» et manifeste ainsi le contentement des Parisiens à sentir leur roi près d'eux. Tout au long de son voyage, la musique précède et suit la voiture et joue en boucle cet air. Le 11 août, un décret déclare l'égalité civile et fiscale. C'est le plus grand bouleversement que la France connaît. L'ancien régime et les privilèges s'écroulent en l'espace d'une nuit. Le 26 août, l'Assemblée nationale adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont Mirabeau et Sieyès sont les principaux rédacteurs. Cette déclaration est devenue le modèle de la plupart des constitutions modernes. Elle établit les droits fondamentaux de l'être humain. Le droit à la liberté, à la sécurité, à l'égalité de tous devant la loi. Mais aussi le principe de souveraineté populaire. La nation n'est plus une royauté de droit divin, elle est proclamée dépositaire du pouvoir. Mais la France est déchirée, l'économie en berne. Pour le 14 juillet 1790, premier anniversaire de la prise de la Bastille, on organise la fête de la Fédération sur le Champ de Mars. Mais pour cela, de grands travaux de terrassement sont nécessaires. On lance alors un appel aux citoyens afin de renforcer l'équipe des ouvriers. Les Parisiens répondent massivement et arrivent en famille chaque matin accompagnés de musique militaire. On joue alors le carillon national sur le refrain de la chanson « Assa ira ».
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, suivant la maxime de l'évangile. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, du législateur tout s'accomplira.
Cette chanson devient un symbole très fort et un signe de ralliement entre patriotes jusqu'au consulat. Des témoignages rapportent que la garde défilait devant le roi sur l'air de « Ah, ça ira ». Il se joue dans tous les théâtres avant les représentations et pendant les entr'actes, quel que soit le style de l'œuvre présentée. Les patriotes veillent à ce que ce soit respecté. Dans les cafés, les jeunes patriotes obligent les patrons d'arborer les couleurs nationales et de faire jouer cette chanson. Pendant toute cette effervescence à Paris, l'armée s'agite. Necker, inquiet de la tournure des événements, démissionne. L'Assemblée prend alors en main le trésor public. Mais la crise financière ne se résout pas. Mirabeau, alors président de l'Assemblée, meurt en mars 1791. La situation se complique pour le roi. Le 21 juin 1791, le lit du roi est vide. Il a fui la veille avec sa famille dans une berline. Reconnu à Varennes, il est arrêté. Le retour à Paris se fait sous les insultes du peuple, qui se sent trahi et ne manque pas de le chanter dans les rues de Paris. Depuis l'arrestation du roi à Varennes et le développement des idées révolutionnaires dans la région du Rhin et au nord de l'Italie, l'Europe, l'Autriche en tête, commence à voir d'un mauvais œil cette France turbulente. Le 20 avril 1792, la guerre est déclarée à l'Autriche. La France entre dans un long conflit avec toute la vieille Europe. Et c'est durant ces campagnes militaires que commence à se répandre le chant de guerre pour l'armée du Rhin, qu'on appelle bientôt la Marseillaise. Composée à Strasbourg dans la nuit du 25 au 26 avril 1792 par un officier Rouget de Lille, cet hymne fut chanté pour la première fois par un groupe de fédérés marseillais qui entrent dans Paris le 30 juillet 1792 afin de réclamer la déchéance du roi. Si ce chant nouveau obtient un franc succès, il ne détrône pas le « Assaïra », si cher au cœur des révolutionnaires. La chanson est l'incarnation de l'unité populaire. Alors, où sont nos chansonniers ?
À réécouter sur francemusique.fr.